Il est 7h.
George Floyd's story has been the story of black folks.
L'histoire de George Floyd, c'est l'histoire des Noirs. Ça fait 401 ans que vous avez votre genou sur notre cou. Cérémonie à la mémoire de George Floyd hier à Minneapolis, la même où cet homme noir est mort lors de son arrestation. Le cercueil va partir pour un périple aux aires d'hommage national. 4 scénarios pour la suite du déconfinement, mais les experts excluent un nouveau confinement généralisé. Quant aux soignants, ils appellent à la mobilisation le 16 juin, déjà mécontents du Ségur de la Santé. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Coup de projecteur sur un éditeur de logiciels qui embauche en ce moment.
On se sent un petit peu privilégié. Quand on voit la situation en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu de mal à s'en sortir, alors qu'ici, ça, ils arrivent quand même à recruter.
Le plan de relance allemand de 130 milliards creuse l'écart avec la France. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. Et puis Versailles prépare sa réouverture. Demain, un château bichonné pendant 3 mois.
Les lustres ont été dépoussiérés, les miroirs ont été nettoyés. Le dernier grand nettoyage de cette nature a eu lieu, je crois, en 2007.
Juste après ce journal, quelles conséquences aura eu le confinement sur la santé mentale des enfants et adolescents? Votre rendez-vous santé avec Jimmy Mohamed, 7h15, l'innovation à Nice Mbida qui vous propose un purificateur d'air pour cyclistes. Et enfin, le foot amateur en grand danger, menacé par les professionnels, nous dira Virginie Fulpin dans son édito sport après 7h20. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h02, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
8 minutes et 46 secondes, le temps de l'agonie de George Floyd. Hier soir, devant son cercueil à Minneapolis, l'Assemblée a respecté 8 minutes 46 de silence lors d'une cérémonie particulièrement émouvante dans la ville où cet homme noir a été tué par un policier blanc. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1. C'est le début d'un périple qui conduira la dépouille jusqu'à Houston, au Texas, où les funérailles sont prévues la semaine prochaine.
Le dernier voyage de George Floyd prend des allures de funérailles nationales. Première étape hier à Minneapolis. Devant le cercueil doré, le maire blanc de la ville s'agenouille et fond en larmes. Puis le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, élève George Floyd au rang de symbole universel.
L'histoire de George Floyd, c'est l'histoire des Noirs. Ça fait 401 ans que vous avez votre genou sur notre cou. Ce qui est arrivé à Floyd arrive tous les jours dans ce pays. Dans l'éducation, dans la santé, dans tous les domaines de la vie en Amérique. Il est temps pour nous de se lever et de dire virez vos genoux de nos coups.
La dépouille de George Floyd va désormais prendre la direction de la Caroline du Nord, où il est né. Dans ce sud encore imprégné de son passé esclavagiste, cérémonie prévue demain. Enfin, le cercueil doré arrivera à sa destination finale, Houston, la grande ville du Texas, où vit la famille de George Floyd. Hommage public lundi, obsèques privées mardi, avec la présence annoncée de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama et candidat à la Maison Blanche. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et justement, je vous le disais, à 8h30, c'est le chef de la police de Houston, au Texas, qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1. Rendez-vous 8h30 tout à l'heure.
Et puis une autre vidéo virale enflamme les réseaux sociaux, prise lors d'une manifestation près de New York. On y voit un policier pousser un homme âgé qui tombe en arrière, perd connaissance et saigne de la tête. 2 policiers ont été suspendus.
À Lille, une manifestation contre les violences policières a réuni au moins 2000 personnes hier soir. Rassemblement non déclaré qui réclamait justice pour Adama Traoré, décédé après son arrestation il y a 4 ans.
Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Et puis dans cette affaire, la famille d'Adama Traoré demande que l'inspection générale de la gendarmerie nationale soit dessaisie de l'enquête au profit de la police.
Maintenant que le coronavirus semble s'éloigner, comment anticiper la suite? Pour répondre à cette question, le Conseil scientifique vient de présenter au gouvernement ses 4 scénarios pour le déconfinement.
Les experts développent les différentes hypothèses, Eve Roger, de la plus optimiste à la plus catastrophique, sans en privilégier aucune.
Premier scénario, et c'est le plus favorable. Il ressemble à celui qu'on est en train de vivre. Le virus circule encore un peu avec des clusters ici et là, mais il est sous contrôle. Pour les experts, la vie normale pourrait reprendre dans les 6 mois, avec la fin du télétravail recommandé et une rentrée scolaire de septembre plus complète. Deuxième scénario, moins favorable, l'apparition de clusters dits critiques, comme celui du rassemblement religieux à Mulhouse, ça veut dire incontrôlé. Là, des mesures s'imposent, mais seulement pour les populations concernées. Troisième scénario, l'épidémie revient masquée, à bas bruit, mais sur l'ensemble du territoire. Là, il faut déclencher les grands moyens, un plan destiné à protéger en priorité les seniors, mais aussi les précaires et les habitants des grandes villes, mais pas de reconfinement généralisé en vue. Seul le quatrième scénario, la perte du contrôle de l'épidémie, l'esquisse, mais ce serait un échec, disent les scientifiques, réticents à l'idée d'un reconfinement imposé à tous à cause des conséquences économiques et sociales.
Et d'ailleurs, Eve, ce matin dans le journal Le Parisien, le professeur Delfraissy affirme que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France. Le prix à payer est trop lourd. Ils ont été applaudis tous les soirs, auront droit à des médailles et à un hommage le 14 juillet. Et pourtant, les personnels de santé sont amers. En plein Ségur de la santé, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une mobilisation le 16 juin.
Bonjour docteur Sophie Crozier.
Bonjour.
Merci d'être l'invitée d'Europe 1 ce matin. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, représentante du collectif Interhôpitaux. Elle va prendre quelle forme cette mobilisation ? Vous ne pouvez pas manifester ?
Non, effectivement, on est en train justement de réfléchir à d'autres modes de mobilisation, mais ça nous paraît effectivement très important aujourd'hui de montrer qu'on reste très mobilisé, même si on participe actuellement à cette concertation qui est le Ségur de la santé, parce qu'on est un peu dubitatif et en tout cas très inquiet du fait qu'on n'ait toujours pas en fait d'annonce très claire sur les moyens nécessaires pour sauver l'hôpital public. Il faut que le gouvernement puisse traduire très rapidement maintenant en acte les paroles du président. Il y a un plan massif qui a été annoncé et en fait effectivement ce qu'on entend et ce que vous disiez, on entend des annonces et même des décrets qui passent pour avoir des chèques vacances, des médailles, un défilé avec un hommage le 14 juillet, et c'est assez inquiétant par rapport à la situation actuelle de nos hôpitaux. Je pense que la situation était difficile avant la crise du Covid, hein, comme vous savez, et ça s'est pas du tout amélioré maintenant, c'est même pire. Et donc nous, on se mobilise pour demander en urgence évidemment une revalorisation salariale pour pouvoir recruter, parce que sans revalorisation salariale, sans revalorisation des carrières, on ne pourra pas recruter du personnel en nombre suffisant. Et il faut un vrai plan d'attractivité aujourd'hui pour avoir du personnel au lit des malades et arrêter de fermer des lits et pouvoir accueillir les patients dans des conditions de qualité et de sécurité suffisantes. Donc tout ça, on le dit depuis plus d'un an, comme vous savez. Donc on reste là aujourd'hui très inquiet sur l'absence de mesures. Je rappelle qu'il y a déjà eu des annonces en fait, notamment pour les entreprises, ce qui est une très bonne chose, ou d'autres milieux. Il y a 110 milliards d'euros annoncés pour les entreprises et pour l'instant, on n'a rien comme annonce concrète, en dehors effectivement des médailles et des chèques vacances.
Ouais. Un moyen donc de maintenir la pression aussi. Merci docteur Sophie Crozier, membre du collectif Interhôpitaux. Merci d'avoir été en direct l'invité du journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
Et j'ajoute que selon les informations d'Europe 1, la prime exceptionnelle pour les soignants va être élargie à l'ensemble du personnel médico-social, y compris celui du secteur privé. Elle atteindra 1 000 à 1 500 euros.
Europe 1, il est 7h08.
40 milliards d'euros pour aider les secteurs les plus en difficulté à cause de la crise. C'est le nouveau budget rectifié pour 2020. L'automobile, le tourisme ou encore l'aéronautique qui doivent en bénéficier.
Et pourtant, malgré la crise, certaines entreprises parviennent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Sarbacane, une PME installée à M, à côté de Lille. Cet éditeur de logiciels pour gérer l'envoi de SMS et de mail marketing est en plein essor et il recrute. Reportage de Maximilien Carlier.
Un open space vide, personne sur les bureaux. Une image typique du télétravail, celui qui fait la croissance exponentielle de Sarbacane. Car quand la France est à l'arrêt, comme pendant le confinement, seuls restent les outils numériques. Paul de Fombelle, le directeur général.
Tout le monde a dû annoncer si son activité continuait. Les grands groupes ont dû annoncer en interne comment fonctionner. Donc on a envoyé des millions d'emails et de SMS les tout premiers jours du confinement. Et là, on marche très très bien et on n'a jamais eu autant de travail.
À tel point que l'entreprise a dû embaucher depuis la mi-mars. Entretien en visio, à distance parfois. 5 personnes sont arrivées, dont Maïto, 24 ans.
J'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'on se sent un petit peu, entre guillemets, privilégié. Parce que quand on voit la situation en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu de mal à s'en sortir. Alors qu'ici, ils arrivent quand même à recruter et à former. Donc je trouve ça assez incroyable.
Et il y a encore une quinzaine de postes à pourvoir dans cette société qui compte 95 salariés. Maximilien Carlier, Europe 1.
Et pendant ce temps-là, la locomotive allemande se met en marche. La coalition au pouvoir décide un plan de relance massif, un plan de 130 milliards d'euros. Et c'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Un plan que ses partenaires européens réclamaient depuis longtemps.
Ben oui, souvenez-vous, bien avant la crise du Covid, plusieurs pays européens pressaient l'Allemagne pour qu'elle dépense plus. Elle a des réserves, elle doit jouer son rôle de locomotive, entendait-on, à Paris ou à Rome. Alors le Covid l'a convaincue, surmontant ses divisions, la coalition lance une relance à 130 milliards d'euros, dont 80 milliards pour les ménages, avec par exemple une baisse de 3 points de la TVA pour soutenir la consommation. Et puis à cela s'ajoutent 50 milliards en faveur des entreprises, de l'investissement, de la recherche. Berlin veut profiter de la crise pour accélérer la modernisation de l'économie et renforcer le capital des entreprises.
Ça veut dire aussi que la première économie d'Europe creuse l'écart avec ses voisins.
Exactement. Alors on doit se réjouir de cette relance. Bien sûr, l'économie allemande va tirer le reste de l'Europe et dont la France. Le revers de la médaille, c'est que l'Allemagne va muscler son appareil productif et effectivement creuser l'écart avec nous en termes de compétitivité, d'investissement sur des secteurs d'avenir. Le plan de relance européen, lui, qui est en cours d'élaboration en ce moment, doit permettre à des pays qui ont moins de moyens, comme la France, de ne pas décrocher. Mais la machine économique allemande est en train de prendre des longueurs d'avance et elle le peut, car elle a beaucoup mieux géré ses finances publiques ces dernières années que nous. Ceux qui disent que la dette n'a pas d'importance ont aujourd'hui la preuve du contraire.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Europe 1.
Et dans un tout petit instant, direction Versailles, qui s'est parée de ses plus beaux atours pour la réouverture demain. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h13, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
C'est Chambord qui ouvre le bal, le plus connu des châteaux de la Loire rouvre ses portes aux visiteurs aujourd'hui, mais avec évidemment des mesures sanitaires renforcées. Ce sera au tour de Versailles demain.
Un peu comme la Belle au bois dormant, le château va donc se réveiller d'un long sommeil, l'occasion de se refaire une beauté. Diane Chénouda a eu la chance de le visiter en avant-première.
Là, on a au sol fait un marquage très simple avec des pochoirs qui représentent le roi soleil pour que les visiteurs puissent se maintenir à distance les uns des autres.
Le château ne laissera passer que 400 visiteurs par heure avec un circuit balisé à sens unique dans les appartements royaux. Thierry Weblay est le directeur de l'accueil et de la sécurité du château et domaine de Versailles.
Alors là, nous arrivons dans la galerie des glaces qui a été entièrement nettoyée. Les lustres ont été dépoussiérés, les miroirs ont été nettoyés. Le dernier grand nettoyage de cette nature a eu lieu, je crois, en 2007. Donc là, les visiteurs samedi vont retrouver une galerie absolument exceptionnelle.
Dans les jardins, on circule librement. Il y a encore des herbes folles, mais un très beau parterre a été créé. Alain Baraton est le jardinier en chef du domaine Trianon et du Grand Parc de Versailles.
Très heureux de vous accueillir dans le parterre africain qui célèbre l'Afrique. C'était l'année à l'origine Franco-Afrique. Et pendant que le parc était confiné, eh bien on s'activait auprès du Grand Trianon pour planter des palmiers, des grenadiers, des bananiers, quantité de plantes qui peuvent nous rappeler ce continent qu'est le continent africain.
Et les bassins ont retrouvé tout leur éclat pour le spectacle des grandes eaux musicales dès ce week-end.
Il y a une question économique aussi, hein, avec le domaine de Versailles, il faut bien le noter. 67 entreprises sous-traitantes qui travaillent en permanence avec le château, un millier d'employés. J'en parlerai à Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château du domaine de Versailles. Elle est mon invitée tout à l'heure, après le journal de 7h30. Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal de 7h. Vous êtes sur Europe 1, hein, il est 7h15.